Nous sommes mardi matin sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Je suis avec Laurent Jean-Pierre qui a publié un livre à la découverte, In Jérôme, les leçons politiques des ronds-points. Livre, comme vous l'avez deviné évidemment, puisqu'il y a le mot rond-point dedans qui parle des gilets jaunes. Et avec Boris Hurtel qui vient de publier une BD, une bande dessinée avec une pagination assez importante qui s'appelle « L'avenir est ailleurs » et dont l'éditeur est de Ushi Kushi, il nous dira comment ça se prononce. Mais en arrivant, j'ai constaté que je venais de recevoir le journal du plateau des Mille Vaches qui vient de sortir, qui s'appelle « IPNS ». Insuffisant les politiciens nuisibles socialement. C'est le numéro de septembre 2019. Il vaut 3,50 €. C'est le journal d'information et de débat du plateau des Mille Vaches. Et il est accompagné par un programme de festivités qui vont avoir lieu. Ils ont déjà eu lieu quand vous entendrez cette émission, malheureusement, parce qu'ils ont lieu le 27, le 28 et le 29 septembre 2019. Et donc, ce qui est amusant, puisqu'on va parler des gilets jaunes, il y a par exemple j'ai vu ça là tout à l'heure, il y a un atelier constant qui parle des gilets jaunes. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est un programme très détaillé. Il parle de migrants, etc. Donc il y a des projections, il y a du qigong, il y a un tas de choses. Il y a un atelier hypno, c'est à Saint-Martin-Château. Il parle de cartographie, de présentation aux personnes en souffrance psychique sur la montagne. Il parle d'énergie nucléaire, de traitement des déchets. Atelier journal, une rivière, la Brézantine, une rivière en résistance. Il y a une lecture à deux voix de King Kong Theory de Virginie Despentes. Enfin, vous voyez le genre. Donc, je vous mettrai le lien du journal IPNS si vous désirez vous y abonner sur la page de podcast. Et maintenant, nous allons attaquer l'émission. Bonjour. Et donc, Laurent. Tu as fait un livre sur les gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui t'a poussé à l'écrire, les principaux... Ce que tu amènes, en fait, ce qui t'a poussé. Bon, il est clair que ton analyse est sur la nouveauté du mouvement, le type de gens qui n'avaient jamais manifesté, qui descendent dans la rue, l'implantation, une résurgence d'une politique localiste, l'existence des réseaux sociaux, une architecture welbeckienne que j'aime beaucoup. J'avais reçu Clément Rachet ici qui a fait un livre sur Welbeck et l'architecture. Architecture qui est plein de ronds-points, qui est plein de routes qui ne mènent nulle part, de centres Leclerc dans des endroits abandonnés qui surprennent au coin de la rue. De problèmes de diesel, de problèmes de véhicules utilitaires. Donc on a là des gens. Et ce qui est intéressant, c'était justement dans le livre de Daniel Denver, je crois que j'avais lu ça, c'était qu'il y avait des flics qui se retrouvaient en face de leurs beaux-frères et leurs belles-sœurs. On a une espèce de bas des classes moyennes, tous ces gens... S'il y a aussi toute la dimension, cette impression qu'on a, si ces gens ne disposent d'aucun moyen de pression, que s'ils arrêtaient de travailler, ça ne se remarquerait pas, qu'ils ont des emplois vraiment très très bizarres. Ils manifestent sur des parkings de grande surface, par exemple. C'est une très belle image du désespoir. C'est la guerre des caddies, enfin. Qu'y a-t-il dans In Jérôme?
Oui, tu en parles très bien, en tout cas du mouvement des 9 derniers mois. Je te laisse la référence à Michel Houellebecq parce que je ne me l'approprierai pas, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, en fait, on pourrait prendre les choses par là. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a dans ce livre. J'ai écrit donc un livre sur un mouvement social qui m'a plus qu'intrigué, enfin, auquel aussi j'ai pris part en partie, qui m'a intrigué. à cause de ces éléments de nouveauté qui sont nombreux et sur lesquels je vais pas trop insister, mais il y en a un parmi d'autres qui est l'occupation de ronds-points, pas l'occupation en tant que telle, qui existait déjà de longue date dans le mouvement révolutionnaire, dans le mouvement historique, dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier. Je ne me précipite pas pour dire que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement révolutionnaire, mais l'occupation de ronds-points, effectivement, il fallait au moins la création de ronds-points, dont d'ailleurs, en faisant une petite enquête tout à fait rapide, je me suis aperçu qu'il datait de 1907, et c'est vrai que le premier rond-point de France, c'est probablement le rond-point des Champs-Élysées, là même où d'ailleurs les Gilets jaunes se sont réunis le 1er le 8 décembre pour, disons, des manifestations émeutières tout à fait spectaculaires. Et donc du coup, ce que j'essaye de dire, c'est que l'occupation des ronds-points, la décentralisation très grande du mouvement, la politisation de personnes qui n'avaient jamais fait de politique avant ou qui étaient dégoûtées de la politique, en tout cas qui étaient à distance des partis à minima ou qui étaient en tout cas très, très loin de s'intéresser à la politique, tout ça, c'est des traits assez singuliers et qui méritent d'être observés. Ce que j'essaye de faire, c'est à la fois de parler du mouvement, de dire qui était impliqué. Tu as décrit cette sociologie. C'est vrai que c'est drôle que tu signales la question de la proximité sociale entre beaucoup de policiers et les manifestants. Hein. Dans un premier temps, d'ailleurs, du mouvement, on a pu penser que certains policiers pourraient être conduits, si ce n'est à déserter ou à rejoindre le mouvement. Ça arrive dans les moments d'effervescence révolutionnaire. C'est même parfois une de leurs conditions. En tout cas, à être, disons, peu hostile au mouvement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont témoigné dans la presse, notamment, pour dire qu'il y avait dans leur famille, ou plutôt des policiers qui ont témoigné pour dire que dans leur famille, il y avait parfois des gilets jaunes. Et il y a une ironie, disons, aussi au fait que la première réponse gouvernementale en décembre 2018 a été justement une prime accordée aux policiers pour bien s'assurer, en effet, que l'ordre serait maintenu, sans parler évidemment de la violente répression qu'a subi le mouvement, des éborgnés, des gens qui ont perdu les mains, du nombre de violences gratuites, arbitraires que beaucoup de policiers ont fait subir aux participants au mouvement. Donc la question, effectivement, de la proximité sociale avec la police et de la distance en réalité répressive est une question qui a été assez centrale, que j'ai peu traité dans l'ouvrage, mais qui m'a intéressé. Donc je dis d'un mot pour terminer, parce que je veux laisser la parole à Boris, bien sûr. La thèse du livre, c'est de dire que voilà, ce mouvement, il faut l'analyser parce qu'il est neuf pour plein de raisons, et d'autre part, il faut le mettre en série avec d'autres mouvements dont je dis que ce sont des mouvements de relocalisation de la politique ou de reterritorialisation de la politique, c'est-à-dire des mouvements qui essayent de loger la protestation, la discussion dans des espaces locaux et qui essayent de faire de la vie locale, des conditions de vie, des manières de contrôler nos propres conditions de vie immédiates, des enjeux politiques. Hein. Et donc ça, je dis que le mouvement des places, la ZAD, Nuit Debout, les révoltes arabes à leur manière, ont participé de cette repolitisation des espaces locaux qui est en cours, qui est fragile, qui est intermittente, qui effectivement se voit dans plein d'endroits pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure, mais effectivement qui pourraient converger ou qui convergeront peut-être vers des formes au fond d'autonomie populaire à l'échelle locale, qui est en gros ce que je décris comme une sorte de point de fuite de l'ensemble de tous ces mouvements, et je suis très prudent pour pas sauter immédiatement de l'observation, de la constatation vers, disons, la rêverie utopique.
On donnera la parole à Boris après, bien sûr, mais te voir me rend plus intelligent, rien que te voir, ça me rend plus intelligent que d'habitude face tout seul à mon écran. Et évidemment, tu m'as fait penser aux barricades. Et parce que quand je dis qu'ils n'ont pas de pouvoir, ce qu'ils font avec les ronds-points, c'est briser le flux. Et le flux est effectivement l'existence de ce monde. Et du coup, on se souvient de Tikkun, on se souvient de toute l'histoire, les ennuis de Koupa. On voit bien qu'il a arrêté un train, en fait. Et on voit bien que les ronds-points pourraient être comme une panne informatique, comme un bug. que c'est juste on coupe le flux et que c'est vrai qu'être devant une autoroute, devant l'entrée d'une autoroute, l'entrée payante d'une autoroute, et bloquer cette autoroute ou brûler la chose qui comptabilise et qui fait payer les entrées, c'est briser le flux et que le flux a changé de grandeur. Et il y a aussi une dimension dans cette répression féroce qui m'apparaît d'un seul coup, c'est la jacquerie paysanne, on pourrait penser au nombre incalculable de morts quand il y a des émeutes pendant tout le Moyen-Âge, des émeutes paysannes, enfin jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, puisque 1789, c'est une année de pénurie de blé, que c'est une des explications brodéliennes à 1789, c'est le manque de nourriture. Donc on avait bien déjà un problème d'approvisionnement de caddies, de liquidités qui circulaient ou qui ne circulaient pas. Et donc on a effectivement cette vision d'un flux. Et le rond-point assure la liquéfaction, le côté très très liquide, le côté doux du flux, son côté harmonieux, son côté la marchandise est véhiculée jour et nuit dans un mouvement incessant qui doit se perpétuer et qui a sa propre finalité en lui-même. Ce ferait un très bon scénario pour une BD de notre ami Boris Hurtel. Alors, mon cher Boris, donc oui. J'ai dit que ta bande dessinée s'appelle L'avenir est ailleurs. Je me suis posé la question en venant dans le bus de la description déjà plastique de la chose. Alors, je pense à une signalétique minimaliste, très virtuose, très, très attentive à ne pas être redondante, sans bavardage. C'est des traits d'une signalétique, un petit peu comme la signalétique de la circulation automobile, justement. C'est comme si les panneaux de circulation, vous voyez, avec le monsieur qui tient un enfant dans la main, ou le petit bonhomme qui s'allume au feu rouge, il n'y en a plus, mais quand il y avait le feu orange, hein, quand on pouvait traverser, toute une signalétique minimaliste de personnages qui sont caractérisés par un ou deux traits pertinents.
Et qui serait dessiné par quelqu'un, enfin, il serait pas imprimé par une machine, il serait quand même dessiné à la main. Et d'ailleurs, c'est plus aussi proche du graffiti, quoi, une signalétique graffiti aussi.
J'avais pensé au paléolithique lors de ta bande dessinée précédente, pour laquelle je t'avais invité. Et il y a effectivement quelque chose de la trace ultime, mais il y a beaucoup de trames. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Si. Mais il y a beaucoup de trames. C'est des trames visuelles. Il y a un côté optique qui est très dynamique, qui est très pensé, qui est très investi. Ça doit être très chronophage en temps aussi à faire, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de maîtriser la chose. C'est peut-être une espèce de musique assez fine, comme ça, où on effleure le piano, on essaye de jamais être grossier. C'est assez au fil de l'eau, non ?
Oui. En fait, donc il y a l'influence du manga aussi, particulièrement des mangas de Tezuka des années 70. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé des trames. Donc c'est un polar. Donc l'ambiance ça m'a intéressé de travailler avec des clairs obscurs. Donc les trames, c'était ça, c'était rajouter une dimension dans la lumière. Puisque le précédent livre auquel fait suite L'avenir est ailleurs, le précédent qui s'est Prisonnier des Amazones, était un livre en pur noir et blanc avec un très tranché. Et un trait tranché même. Et du coup, là, on a des nuances, des jeux sur l'éclair obscur qui renvoient un petit peu à une sorte de voile de la vérité. Justement aussi, c'est un polar. L'intrigue, c'est un personnage qui va à la recherche du fils de son ami qui a disparu. Cet ami, c'est son ancienne compagne. Il avait connu ce fils. Donc ça fait suite au Prisonnier des Amazones dans lequel cette histoire était abordée. Et là, elle lui demande de retrouver ce fils. Et ce fils était un étudiant de philo, passionné par le situationnisme. Et il a disparu dans une communauté autonome, on ne sait pas trop où, mais dans le sud de la France, hein, du côté d'une ville que j'ai appelée Foirac. Donc c'est un peu une sorte de critique, de satire politique. Mais qui décrit un peu aussi un état d'esprit de notre monde actuel, contemporain. tout en s'inspirant de modèles anciens. Donc, puisque il y a la référence au situationnisme, effectivement la référence aux communautés Tikkun, la Corrèze, je pense pas en Corrèze, c'est en plateau des Mille Vaches.
Limousin.
Au Limousin. Il y a donc plein de clins d'œil que vont reconnaître les personnes qui connaissent un peu ce milieu. Et, mais après, j'ai voulu aussi élargir cette thématique et cette recherche qui est dans cette recherche de se retrouver la personne disparue à d'autres milieux clandestins ou semi-clandestins. Alors, il y a les bandits, des bandits géorgiens que j'appelle Boldaves dans mon livre, mais je me suis inspiré un peu de bandits géorgiens. Et il y a d'autres milieux. Alors, le milieu, par exemple, l'histoire commence dans un sanatorium, et donc c'est un petit peu tout le milieu des sans-papiers, des gens qui arrivent clandestinement en France, qui vivent clandestinement, mais qui attrapent des maladies, ou qui les ont déjà parce qu'ils viennent de pays où il n'y a pas un système de santé suffisant. Et donc ça permet aussi d'accéder à ce milieu un peu clandestin, un peu médical.
Voilà. C'est très étrange le rapport à la temporalité, effectivement, parce que j'avais l'impression de revisiter mon enfance. Il y a un aspect recherche spatiale, enfin, il y a une espèce de jeu premier degré avec le spatial qui n'existe plus depuis mes 10 ans. Et j'avais 20 ans en 68, qui a dû disparaître vers 58-59, enfin, au niveau de Spoutnik, quoi. Enfin, on oui. est dans un premier degré de la conquête spatiale qui a complètement disparu. Enfin, c'est comme tout. Il y a un énorme pathos qui s'est attaché à tout. On a vraiment changé de dimension. Le côté jouet d'enfant qu'il y avait dans cette chose. Bon, ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui est très surprenante, c'est ton acrimonie vis-à-vis de Guy Debord. C'est absolument oui. passionnant.
Il y a deux obsessions dans ce livre.
C'est passionnant, ça, pour nous.
Et effectivement, il y a les astronautes autonomes. C'est vrai que j'ai oublié de dire que la communauté autonome est une communauté fondée sur l'astronautique et la volonté de créer un satellite autonome pour pouvoir développer un système de défense dans la mesure où, à partir du moment où ce sont les satellites qui contrôlent tout et qui surveillent tout sur notre planète, quoi. Donc c'est vrai, je revendique cette sorte de... Alors moi, je trouve que c'est personnellement un livre actuel, mais c'est vrai que je ne me suis pas posé un seul instant la question de le situer, on va dire, dans la temporalité, à part que j'ai bien mis des voitures, qu'à un moment donné, on dit bien que le personnage ne doit pas avoir de téléphone portable, qu'il y a un niveau technologique possible, on va dire, pour les autonomes, d'envoyer un satellite dans l'espace, et que ça ne peut être qu'à notre époque. Mais c'est vrai que ce sont des thématiques qui, avant, étaient des thématiques qui étaient dans la science-fiction classique, et que là, je replace ou déplace dans la sphère des anarchistes autonomes. Et ça, on est entre deux époques.
Donc... Oui, ben moi, ce qui est frappant dans le livre, enfin, parce que l'impression que tu as eue, je pense, Yves, est liée au fait que les premières planches s'ouvrent justement par l'évocation du sanatorium. Or, l'institution du sanatorium nous apparaît comme extrêmement datée, même si on sait que...
La pénicilline le supprime, oui, c'est juste.
Même si on sait qu'effectivement, la tuberculose revient, et notamment elle revient effectivement à cause de la misère. Mais bon, la figure du sanatorium, c'est une figure extrêmement, circonscrite datée dans le temps, parce que la tuberculose est une maladie dont on a l'impression qu'elle a un début, elle a une fin, qu'il y a eu un vaccin, etc., etc. Et donc ça évoque immédiatement, disons, la période des années, disons, de l'après-guerre, la première guerre mondiale, je dirais jusqu'aux années 60, quoi. Bon, voilà. Et, alors moi, ça m'a d'autant plus touché que les sanatoriums font partie de ma vie familiale, puisque mon père est soigné d'abord et il a travaillé ensuite toute sa vie. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup au sanatorium, enfin, à l'histoire du sanatorium, qui est vraiment quelque chose, à mon avis, tout à fait négligé, et qui est pas sans rapport, alors peut-être pas avec l'histoire des astronautes autonomes, mais je dirais quand même avec l'histoire, alors disons des groupuscules d'avant-garde, parce qu'au fond les sanas c'est un endroit, il y en a plein des endroits comme ça, les ronds-points aussi, les grands moments d'effervescence, tu parlais de 68, où en fait des gens se rencontrent par-delà les classes sociales, quoi, parce qu'effectivement la maladie elle touche tout le monde, quoi. La maladie elle touche aussi bien l'aristocrate, et bon, dans les romans sur les sanatoriums c'est toujours un thème, quoi. Thomas Mann, c'est ça, la montagne magique, c'est ça touche aussi bien des grands grands aristocrates, que effectivement des gens du peuple qui finissent par se parler et donc par se rencontrer. Et donc c'est un lieu d'acculturation générale, disons, ou réciproque. C'est un lieu d'apprentissage collectif, d'intelligence collective. On se souvient que Barthes a été effectivement en sanatorium. C'est là qu'il a...
Et Éluard aussi.
Éluard aussi, tout à fait, qu'il a conçu...
Thomas Mann, évidemment, la montagne magique, tout le monde pense à ça.
Qu'il a conçu, en fait. Il y a un petit texte de Barthes que j'adore. Je termine là-dessus, sur l'histoire. Enfin, j'ai un mot à dire après, mais sur ton livre. Mais ce que je veux dire, c'est que il avait conçu une sorte de manifeste d'avant-garde qui s'appelait Esquisse d'une société sanatoriale. C'est un des premiers textes de Barthes, 43, je crois, hein, à vérifier. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, il n'y a pas une discontinuité. Alors, il y a une discontinuité un peu chronologique entre la conquête de l'espace, la technologie que tu décris dans ton livre, et cette figure du Sana qui ouvre le livre, et avec ses infirmiers de Sana qui sont, en quelque sorte, des personnages centraux, quoi. Et par ailleurs, effectivement, il y a une continuité quand même entre, bon, voilà, ces affaires de groupe, de groupuscule, cette vie sanatoriale qui est une vie recluse au fond et qui n'est pas sans rapport avec la vie recluse de gens qui partiraient en communauté à la campagne pour recréer les conditions d'une société nouvelle. Donc ça m'a beaucoup plu, quoi. Et effectivement l'ombre, il y a une ombre aussi sur le livre, hein, qui est quand même, enfin bon, l'avenir est ailleurs. On pourrait discuter, on pourrait disserter là-dessus. On le fera peut-être après. C'est pas forcément l'objet de la discussion ici. Mais l'ombre quand même qui pèse sur le livre. Il me semble, enfin, c'est ce que la fin me semble dire d'une certaine manière. Tu peux me dire si je me suis trompé dans la lecture. C'est quand même l'ombre de la catastrophe écologique, puisqu'à la fin, il est question quand même de quitter la Terre ou de faire sécession autrement, quoi. Mais c'est ça l'idée d'un avenir situé ailleurs, non ?
Voilà, c'est peut-être le moment où le livre sort du passé pour revenir dans le présent assez brutalement. C'est à la fin, effectivement. Il y a aussi l'ombre de Guy Debord, et on va falloir en reparler, je ne pas l'oublier celui-là.
Tu l'appelles comment dans
que j'appelle livre. Gilles Remord.
Voilà. Alors, c'est pourquoi pas... Gilles Remord ?
Alors écoute, là maintenant, parce que j'aime bien Remord, Debord.
Moi aussi ça sonne bien.
Je cherchais un mot qui ressemble à Debord.
Mais qu'est-ce que tu reproches à Guy Debord ? Soyons simples.
En fait, ce que je reproche à Guy Debord, comme à beaucoup de grands libérateurs, c'est de ne pas appliquer à eux-mêmes leur théorie. Voilà, ouais. Pour commencer. Hein.
Parce que Guy Debord, c'est un très bon critère.
Mais malheureusement, on dirait que c'est la première chose qui se passe en politique, c'est que pour pouvoir un homme politique ou un homme qui est dans l'action politique commence par suspendre, on va dire, son jugement pour pouvoir agir. Et donc, en faisant ça, directement, il ne s'applique pas les critères qu'il applique par contre à la critique des autres. Donc ça, c'est, moi, je pense qu'il faut s'appliquer d'abord à soi-même les propres critères de critique. Donc Guy Debord était un théoricien de la liberté qui avait en même temps une théorie extrêmement, que je trouve stricte et cohérente, mais qui est presque, comme on va dire, un dogme. Et du coup, les gens qui enfreignaient ce dogme étaient exclus. Et c'était aussi un grand manipulateur, quelqu'un qui était extrêmement intelligent au niveau de la contrôle de la réputation, fabrication de réputation, donc un homme de médias, même si on...
Oui, un maître du spectacle.
C'est un maître lui-même du spectacle. D'ailleurs, il avait... Alors, je me suis basé beaucoup sur une biographie d'une personne qui peut-être n'est pas autorisée, mais c'est Apostolides.
D'Apostolides, oui, qui est une biographie...
Alors, il est venu ici, Apostolides, parler de son livre. Voilà,
qui est une biographie qu'on peut discuter, mais en tout cas, qui, d'un point de vue documentaire, apporte beaucoup d'éléments nouveaux par rapport à ce qui existe.
Mais même quand on a lu Le Bourseiller, déjà, on est tombé de la chaise sur des rapports que Debord avait avec certaines personnes. Mais ce n'est pas vraiment ce que je ressens, moi, en lisant ta BD. Je voulais dire aussi qu'en fait, puisque tu parlais des mangas, tu refais à la main des choses que les types faisaient faire par les machines, hein, parce que eux, les trames, c'est des trames d'imprimerie en fait.
Oui.
Et donc ça, c'est important, cette dimension que tu reprends
manuel,
que tu reprends le truc manuel, que tu le fais tout seul, ça ressemble un petit peu à un propos sur les gilets jaunes. Il y a cette dimension, ce désir d'avoir une vraie vie avec des vraies choses, avec des vrais gens. Il y a tout ce qui est en suspens sur vos deux livres, c'est le désir d'une communauté. Hein. Oui, il est bien clair qu'on est clair là-dessus. Et moi, je lis, enfin pas seulement sur ce livre, voilà, sur le précédent, sur les rapports qu'on a eus. Pour toi, Debord, c'est une vieille chose emmerdante, c'est un mot creux qu'on répète, dans lequel il n'y a absolument aucun contenu, c'est un fétichisme de l'impuissance, c'est des mots qui n'ont pas de contenu. Et par exemple, dans le livre de Laurent Jean-Pierre, je sens beaucoup plus l'influence très positive de Raoul Van Eghem, un côté humain comme ça, qui a ses limites, qui est un petit peu... parce que Van Eghem, par exemple, médit de ses propres ouvrages qui étaient très radicaux, comme le traité de vivre à l'usage des jeunes générations, à cause
de
le traité de savoir-vivre, parce qu'il disait du bien du terrorisme, par exemple, c'était l'époque, et donc ça, c'est des choses qu'il n'assume plus du tout. Et il y a une grande recherche d'humanité, et c'est un petit peu le point commun qu'il y aurait dans vos deux ouvrages. C'est bon, il cherche cette fille, par exemple, tout le temps. Bon, comme c'est une histoire, que c'est un roman, il cherche l'amour. Et il va finir par sauter, effectivement, la fille dans ta BD. Mais c'est quand même l'existence de l'autre qui est en question. Hein, que ça soit sur un rond-point ou que ça soit dans l'avenir est ailleurs. La première chose qu'on sent, c'est le désarroi de tout le monde. Cette absence totale de communauté, cette solitude pesante. Vous êtes d'accord?
Alors moi, ce que je dirais, mais je te laisse la parole.
Vas-y.
Donc c'est que je pense que dans ton livre Injurum, on va avoir une description rationnelle d'un désir de communauté, alors que moi, j'ai fait une sorte de rêverie, en fait. C'est une rêverie poétique, mais qui est autour de la clandestinité de la communauté et de l'état de l'écologie actuelle, qui est absolument désespérant. Hein. Mmh. Et les médias nous rabâchent avec ça, mais la vérité, c'est que c'est vrai. Donc c'est très dur de garder l'espoir avec un tel poids sur la tête. Mmh.
Voilà. Oui, je suis d'accord, mais en tout cas, je suis d'accord sur ce que tu dis sur le fait de sur la question d'aspiration, disons. Bon, je dirais l'aspiration autonome. Il y a une aspiration à l'autonomie, c'est-à-dire à ne pas être dépendant justement des formes de représentation existantes. Là, je parle des ronds-points. Hein. Voilà, il y a une aspiration à la maîtrise de ses conditions de vie qui renvoie aux questions écologiques, hein, c'est-à-dire voilà que on veut savoir ce qu'on a dans notre assiette. Alors ça, c'est pas central dans les revendications verbales des Gilets jaunes, mais je pense que ce sont des choses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on parlait beaucoup de vie quotidienne. Et effectivement, sur quel fond on parlait beaucoup de vie quotidienne, de la vie des parents, de la vie des enfants, de la vie ordinaire, pas simplement du problème des fins de mois, du problème effectivement des dépenses contraintes, etc. Mais au fond, de choses. Voilà. Alors, il y a une frange, disons, qui n'était pas complètement dégoûtée de la politique ou dépolitisée ou apolitique avant le mouvement, qui elle a même été plus loin. Notamment autour des rassemblements qui ont eu lieu à Commercy, à Saint-Nazaire, à Monceau-les-Mines, autour de rassemblements donc ils sont appelés l'Assemblée des Assemblées, où là, il y avait des initiatives qui se réclamaient bon, voilà, des jardins participatifs, des potagers collectifs, etc. Et donc qui en quelque sorte mettaient en pratique cette aspiration dont on parlait. Mais il faut voir effectivement sur quel fond cette aspiration s'est formée. Et elle s'est formée, pour ce qui est du mouvement récent, sur le fond, disons, du monde périurbain, du monde des ronds-points, des caddies et des hypermarchés, la destruction d'une partie, disons, des anciens paysages que tu décrivais, Yves, au début de l'émission. Et donc, c'est vrai que cette destruction, elle a conduit à beaucoup d'anomie, quoi, c'est-à-dire à beaucoup d'isolement entre les personnes. Et donc, comment, à partir de cet isolement, de cette anomie, de ce monde pavillonnaire, on peut constituer, effectivement, des collectifs. Je retrouve cette question, cette ambiance effectivement dans le livre de Boris. Je dirai un mot tout à l'heure, puisque là voilà, sur...
Que je dise quelque chose, j'ai oublié...
Sur Van Eghem, Debord...
J'ai oublié une chose fondamentale.
Qui est une alternative qui m'intéresse plus, même si elle a pu m'intéresser quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais en tout cas, et ça me permettrait de dire, si je peux en dire juste un mot maintenant, rapidement.
Oui.
Voilà, je réagis à ce qu'a dit Boris. Moi, j'aime beaucoup hein, le côté iconoclaste de Boris, parce que c'est vrai que la statue du commandeur debordienne pour les milieux, pour les jeunes gens, pour les gens qui s'intéressent aux médias, pour les milieux plus ou moins anarchisants, pour les milieux radicaux, tout ça, effectivement, paraît un peu, surfait, exagéré. Il y a des boulonnages plus ou moins bien faits par des biographes, par des critiques, etc. Mais je pense que l'essentiel, il est dans le... Il n'y a pas besoin de biographie pour ça, en réalité. Il faut regarder les textes. Et donc, du coup, voilà, je réagis à une expression que tu as eue, Boris. Est-ce que Debord est un théoricien de la liberté ? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette caractérisation. Je pense que c'est un théoricien de la domination, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décrit une forme de domination, qu'il a décrit de manière excessive, de manière, disons, totale, parce qu'il est attaché justement à la catégorie de totalité, c'est ça la théorie du spectacle. Mais effectivement, il faut l'interroger à l'aune de ses propres pratiques. Bon, mais moi, les biographies, le biographème, la critique de la vie ordinaire, bon, c'est important pour moi, hein. Je pense qu'effectivement, quand on a une exigence critique très élevée, il faut être à la hauteur de cette exigence pour soi. Mais ça suffit. Il y a un autre point, c'est que la théorie du spectacle a produit une forme d'impuissance, c'est-à-dire des spectateurs. Hein, voilà. Donc il y a une sorte de contradiction qu'on appelle performative, c'est-à-dire que la théorie du spectacle, quand elle est lue, elle ne produit pas, au fond, des appuis pour l'action, pour la transformation du monde, pour la transformation historique. Elle produit des gens qui boivent des coups au comptoir. Bon, ouais. Ça, c'est ce qu'elle a produit dans la génération d'après. Et donc, ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Donc c'est, pour moi, c'est une théorie critique qui, du coup, produit les effets inverses de ce qu'elle veut produire, et à ce titre, effectivement, elle échoue.
Vous avez un point commun, j'ai oublié en résumant le livre de Laurent Jean-Pierre au début de parler de la question de la représentativité. Le gros problème qu'ont les gilets jaunes avec qui les représentent. C'est cette question qui revient sans arrêt et qui est formidable.
Absolument.
Et là, le lien avec le situationnisme est évident. Oui. Ouais. Et le lien avec ta bande dessinée, avec se défaire des idoles. Ces gens essayent de ne pas créer, justement, des postes de guignols qui vont représenter les autres, qui vont penser pour les autres. Ils ne délèguent pas leur pouvoir. C'est une histoire de fou. On a les mecs les plus réacs de la terre entière à qui on parle pas, qui sont des racistes, qui sont des cons avec des bergers allemands chez eux, qui ont des vies dont on ne voudrait à aucun prix. On s'est senti, comme pour nous, parisiens, quand cette histoire des gilets jaunes a commencé, on s'est senti comme des seigneurs parce qu'on pouvait prendre le bus pour aller voir quelque chose à l'autre bout de la ville. On a tout ce qu'on veut. Et eux, ils sont en train de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire, à discuter de la représentativité de façon pratique, réelle. Mmh. Et pour moi, qui vous connais un peu tous les deux, c'est un des points communs que vous pouvez avoir. Vous n'aspirez pas à un leadership, vous n'aspirez pas à avoir un leader au-dessus de vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre pense pour vous, vous prenne en charge, vous dise ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas des militants.
Alors moi, ce que je voulais juste quand même préciser pour les auditeurs, c'est quand même que ton livre, Laurent, il s'intitule, il emprunte son nom à un titre d'un film de Guy Debord.
D'un film et d'un livre, oui.
Et d'un livre.
Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est le point que Yves, oui, tout à fait, a suggéré tout à l'heure. C'est que Inji Rum, c'est effectivement le début du film Inji Rum, Imus Nocte et Consumi Morigni, qui est donc un palindrome qu'a utilisé Debord. Nous tournons en rond dans la nuit, nous sommes consumés par le feu, un palindrome qui était un peu, disons, mélancolique et qui décrivait, ce qu'il pensait être l'état du monde après, au fond, la fin de son moment héroïque ou de son moment épique et de sa participation qu'il a jugé grandiose au mouvement de son temps. Et effectivement, j'ai simplement repris le début parce que ça décrivait Inji Rum en rond, à la fois le mouvement des ronds-points, le mouvement un peu de ma pensée face à ce mouvement des ronds-points, hein, qui n'est pas un mouvement linéaire, et aussi, si on lisait le palindrome dans son entier, une forme d'atmosphère autour de la question du brasero, autour de la question de la planète qui brûle, une atmosphère qui est l'atmosphère de l'époque.
Alors justement, je voulais, sur cette question de la planète qui brûle, parce que la question de l'écologie et de la catastrophe écologique, de cette menace qui finalement est propice aussi, on va dire, au roman noir, puisqu'en fait c'est le roman qui, comme disait Manchette, qui est conscient, on va dire, d'une réalité sociale et d'un rapport de classe, mais qui en constate l'échec. Voilà. Donc on est dans le roman noir écologique.
En fait. Constate l'échec de quoi? L'échec de la lutte des classes, l'échec de la conflictualité,
de la révolution.
Oui. Voilà.
De la possibilité de la révolution.
Il faut voir quand Manchette a écrit.
Voilà, et en 70, d'où l'atmosphère 60s qu'il y a dans mon livre. Mais donc je pensais aussi à quelque chose que je voulais dire, c'est que Debord est un théoricien de la représentation, des simulacres, du spectacle, mais c'est aussi un des premiers et grands théoriciens de l'écologie. Bon, alors il a un peu piqué à tout le monde. Hein,
pas un des premiers.
À Ellul.
Des premiers, mais effectivement, il a fait un livre important, La planète malade, dans les années 60. Enfin, un écrit important.
Gore, c'est plus important que lui.
Mais après, il a lui-même a échoué, on va dire, à s'emparer de ce thème. C'était un peu la thèse de d'apostolidès dans sa biographie, c'est que Debord, quand il avait tous les moyens, toutes les clés en main pour construire quelque chose, bah, il préférait tout casser. Donc il y avait ce comportement d'échec, alors qu'il était dans la réussite, et puis aussi un comportement de spoliation des théories des autres. Enfin bon, bref, et donc c'est aussi, comment dire, le thème de l'écologie qui termine le livre, comme le thème du situationnisme qui le commence, et le thème de cette catastrophe latente, c'est un peu l'atmosphère de mon livre, et ça en fait la cohérence, et ça fait le lien aussi, je trouve, avec ton livre sur les gilets jaunes.
Est-ce que tu as conscience, excuse-moi Laurent, est-ce que tu as conscience qu'il y a un côté... les films avec Jean Jardin, comment ça s'appelle ? OSS 117 ?
Jean Dujardin.
Jean Dujardin, ah, oui, il y a un côté... Alors, parce que j'ai lu ta bande dessinée, j'avais pas du tout l'impression d'être au bord de la catastrophe, j'avais plutôt l'impression d'une aventure.
Ah, on rigole.
De retrouver certains côtés...
C'est le côté Tintin.
Moi, j'ai toujours été dans ces espèces de crépuscules où on bavardait beaucoup dans les arrières-salles des brasseries. Il y a le côté Tintin, oui. Parce que là... tu vas avoir un public triste qui va vouloir acheter ta bande dessinée quand ils écouteront cette émission. C'est pas ça du tout. C'est un truc. Tu revisites Tintin, le manga.
C'est un livre très haletant.
C'est haletant, c'est très dynamique. Ça n'est pas passif comme ça. T'es pas assis sur tes fesses à hurler comme un loup à la nuit. Là, t'es pas en train d'hurler à la lune. Au contraire, tu t'amuses.
Oui. Non, tout à fait. Il y a une volonté de distraction, on va dire.
Tu danses sur le volcan.
Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, comme j'avais voulu faire avec le Prisonnier des Amazones, c'est faire du roman d'aventure. Oui, effectivement, OSS 117, Jean Dujardin, et en même temps qu'il y ait du fond derrière. C'est-à-dire que faire passer des idées, faire passer des thèmes philosophiques, voire des choses assez que j'espère assez profondes, mais à travers un médium, la bande dessinée, qui est quand même qui a une réputation en tout cas d'être liée à l'enfance, au ludique, et de ce que je veux, c'est ça, c'est amuser, mais en même temps, on va dire,
c'est un médium qui a énormément évolué, parce que la fonction d'instruction, la fonction d'ouverture du médium est quand même très, très, très établie maintenant.
Tout à fait, oui. Ouais. Alors après, il y a même de récupération culturelle, entre guillemets, comme le jazz a pu être récupéré alors qu'il était encore sauvage, puis il a été récupéré.
La révolution, c'est quand même de type l'association, c'est-à-dire l'arrivée de l'ego. L'arrivée du dessinateur en tant que personnalité, plutôt que de quelqu'un qui usine. Par exemple, moi, j'avais 16 ans à Bruxelles et je faisais partie des amis de la bande dessinée, donc j'ai fréquenté Goscinny, Tilly, je les ai fréquentés, je les ai vus.
Oui.
Et ces gens étaient quand même dans une usine, c'était des ouvriers, ils faisaient ils avaient un cadre très, très strict. Et puis après, on est arrivé maintenant à... La bande dessinée est devenue romantique, elle est l'expression...
Romanesque.
Romantique. Oh, oui. L'expression d'une subjectivité forte, quand même.
Oui, romantique.
T'as pas un rédacteur en chef, tu travailles pas à la semaine, on te fait pas refaire des cases, on t'y fait pas dans cette dimension de la bande dessinée d'Hergé, qui était cadré, qui était un produit industriel, qui était dans un cadre très précis.
Il y en a qui sont actuellement, la bande dessinée, ça recouvre vraiment,
en termes de sociologie,
un énorme marché.
C'est énorme, c'est des milieux complètement différents. Moi, le milieu auquel j'appartiens, qui est le milieu des petits éditeurs indépendants bande dessinée alternative, c'est pas du tout le même milieu que ceux qui travaillent pour Spirou à l'heure actuelle, ou qui travaillent pour Casterman, et encore dans le milieu du manga qui s'est développé énormément en France. Donc là, on a vraiment c'est l'usine. Donc là, on est sur des modes beaucoup plus classiques, quoi. Donc moi, je suis dans le mode artisanal. C'est comme, si vous voulez, moi, je suis un petit producteur bio de narration séquentielle. Voilà.
C'est bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette question de la représentation ? Comment toi qui as réfléchi à cette question des gilets jaunes, comment ça leur est venu de ne pas vouloir... Tous ces mouvements, si tu penses par exemple à la Commune, puisqu'on est à Paris, qu'on sait où avaient lieu les dernières barricades. Moi, j'habite en dessous de la butte aux Cailles, par exemple. Il y a une place de la Commune.
Bien sûr.
Il y a un endroit des amis de la Commune.
Bah, oui.
Et tout de suite, ils nommaient des leaders, ils nommaient des représentants, ils nommaient des délégués par
Arrondissement, oui.
Par arrondissement et après par, par type de pratique.
Par thème, oui.
Courbet est resté très très populaire auprès des gens, tout ça. Enfin, ça... Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu expliques ce phénomène?
Alors bon, je serais pas critique de la Commune de Paris parce qu'elle a, elle a nommé des délégués. Bon, ça c'est un point qu'il faudrait regarder dans le détail ou discuter. Après, non, je dis un mot sur ce que tu as dit tout à l'heure, avec quoi je suis totalement d'accord, c'est-à-dire l'idée que ce mouvement, comme certains autres, hein, ce mouvement, comme certains autres, a contesté la représentation politique, alors instituée, c'est-à-dire les organisations politiques avec des représentants qui sont très différents des représentés, parce qu'au fond, c'est ça qui a été aussi critiqué, c'est le problème aussi des homards de François de Rugy, si on veut lui donner, disons, une image, là, comme ça, médiatique récente, quoi, c'est-à-dire, bon, voilà, la distance sociale, culturelle, mentale, entre les représentants et les représentés, entre leur mode de vie et le fait que les représentants ne comprennent rien ou ne comprennent plus rien à la vie ordinaire ou à la vie quotidienne de chacune et de chacun. Ça, c'est un premier élément. Ce que je dis, c'est que cette critique, elle est pas neuve. En réalité, elle a toujours existé. Dans l'anarchisme, elle existe, etc. Et que moi, je fais partie de ceux qui pensent que, au fond... l'onde de choc de 68 à l'échelle pas simplement française mais mondiale, puisque 68 est un fait historique presque mondial, en tout cas transnational, eh bien c'est précisément lié à ça, c'est-à-dire à cette critique de la représentation politique instituée qui devient quelque chose au fond d'ordinaire, quelque chose à partir de quoi on peut quand même continuer à faire de la politique, c'est-à-dire qu'on peut faire de la politique sans les représentants. Et ce que je dis, c'est que les Gilets jaunes héritent de ça. Et au fond, la théorie situationniste dont on a parlé tout à l'heure, elle est en quelque sorte contemporaine de ces critiques de la représentation qui ont émergé dans la sphère politique de l'après-guerre à l'échelle mondiale. Castoriadis aussi, c'est un héritier, enfin c'est peut-être même le précurseur d'ailleurs de cette critique situationniste d'une certaine manière, puisque lui, il n'a pas critiqué le spectacle, mais il a critiqué, disons, les organisations politiques instituées issues du stalinisme.
Le communisme en acte.
Tout à fait. Et au fond, ce qu'il appelle le projet d'autonomie, qui selon lui traverse le mouvement ouvrier, le mouvement historique, le mouvement social, c'est précisément le projet de s'arracher à ces formes de représentation pour prendre en main soi-même nos affaires collectives. Et moi, j'ajoute que ça se fait plus facilement à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale ou mondiale. Et donc, les Gilets jaunes n'inventent pas ça, mais héritent de ça. Alors même qu'ils viennent, je suis pas d'accord avec toi pour dire que les Gilets jaunes étaient racistes, enfin il y avait probablement certains racistes parmi les premiers Gilets jaunes, et donc alors même qu'ils viennent de mondes où cette question n'était pas thématisée, théorisée, etc., c'est une sorte de sens pratique ou de sens commun immédiat que cette représentation effectivement est un problème pour vraiment s'occuper de nos affaires communes. Et donc non seulement ils critiquent les politiciens professionnels, et ça on l'a entendu, Macron démission c'est finalement rien d'autre que la conséquence de ça, mais ils critiquent aussi leur propre leader. Et donc, il y a effectivement aucun leader ne peut au fond se fixer à l'intérieur du mouvement, puisque les leaders qui sont en fait les gens qui ont été les plus vus sur Facebook ou les gens qui étaient à l'origine du mouvement, comme Drouet, comme Ludowski, en fait, sont des gens qui n'ont pas une autorité stable à l'intérieur du mouvement. Donc, là, c'est pas qu'on les déboulonne. On en a déboulonné certains parce qu'ils ont voulu négocier avec Édouard Philippe. On en a déboulonné d'autres parce qu'ils ont voulu faire des listes électorales. Mais on en a surtout... multiplier le nombre. C'est une manière de pas avoir de chef, que d'avoir beaucoup de chefs. Au fond, ça veut dire qu'on n'a pas de chef, on n'a pas besoin de chef. On est à chacun son propre chef. Et si on regarde dans le détail, des collègues l'ont fait sur chaque rond-point. Il y avait effectivement des sortes comme ça de responsables provisoires, quoi. Et c'est comme ça que fonctionne au fond l'auto-organisation, l'auto-gouvernement, l'autonomie dont je parlais plus tôt. Hein. C'est pas en refusant totalement que des gens fassent des choses ou soient responsables provisoirement de quelque chose, mais c'est surtout en s'assurant qu'ils ne restent pas ancrés dans leur position de pouvoir.
En tout cas, moi, concrètement, moi, le mouvement des Gilets jaunes, j'aurais aimé pouvoir y aller, rencontrer des Gilets jaunes, aller sur des ronds-points. Bon, j'étais en train de dessiner.
Bah, c'est bien.
La particularité du travail de dessinateur de bande dessinée, c'est que c'est un travail solitaire. On reste un peu comme un travail d'écrivain. Moi, ce dont je suis content, c'est quand même qu'à travers ce désir de communauté, Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je pense au titre « La communauté inavouable ».
De Blanchot,
De Blanchot. Alors, j'aime beaucoup ce titre. Alors, je ne me souviens pas bien du livre, mais je crois que je l'avais un peu lu.
C'est un livre qui est très lié aux événements de 68, d'ailleurs.
Et donc, cette sorte de nostalgie de la communauté, moi, ça me touche. Et aussi de façon d'essayer de se retrouver sur des lieux, alors qu'ils sont des lieux de passage, des lieux neutres, des lieux froids, vides, comme des halls d'aéroports, des stations-service, des ronds-points. Moi, j'ai toujours trouvé ça plein de potentialités narratives.
Ouais.
Et j'aime beaucoup, je trouve ça très poétique, le fait que ça soit investi par des personnes qui se sont rencontrées, il y a plein d'histoires à raconter. J'ai pas pu raconter cette histoire, ça aurait pu m'intéresser de raconter des histoires qui se passent sur ces lieux.
Je suis d'accord. Alors, par exemple, les stations-service font partie de mon imaginaire. Il y avait une elfe avec un point rouge. Enfin, il faut penser à Pierrot le Fou, par exemple, de Godard, sur la mise en couleur. Tout le côté pop de la vie. Et c'est vrai que moi, j'adore les lisières, par exemple, les maréchaux, tout ça, c'est les endroits où je suis chez moi. C'est là que j'ai grandi. Je ne suis pas du tout un mec des monuments historiques, du centre légitime. Je n'incarne pas le pouvoir. Mais je n'incarne pas non plus la banlieue. C'est pas, ou encore pire, la campagne où il n'y a plus rien, où il y a des procès parce que les coqs chantent et des choses comme ça. Mais je suis un périurbain.
C'est pas que ça, la campagne.
Je suis un homme des lisières. Je suis un homme des lisières.
Bah donc tu es un homme des ronds-points.
Au bord de la ville, juste au début de l'autoroute.
Bah écoute, il te manque le gilet jaune parce que c'est précisément ça.
Non, mais alors moi, gilets jaunes, je voulais les crucifier. Je me sentais comme un Romain et j'avais l'impression que les gladiateurs, que Spartacus allait arriver et qu'on allait pouvoir les mettre sur les maréchaux, sur des croix. Et là, je me sentais quand même résident de la capitale.
Ça me surprend de toi parce que t'aimes bien les révoltes en général.
Oui, j'aime beaucoup. Et j'arrivais pas à m'identifier à leur type de révolte, mais ça m'a beaucoup travaillé. Et donc, ils sont passés une fois devant chez moi, je les ai suivis, j'ai participé à la manifestation, etc. Ça me travaille, c'est pour ça que je suis content de vous voir. Et je me disais aussi, alors le truc qui m'a beaucoup touché, c'est cette invraisemblable répression extrêmement violente. Et il y a quelque chose à la technocratie, en fait. Peut-être que l'ennemi commun de tout ce qu'on a mentionné, mais moi, par exemple, j'ai fait plusieurs émissions contre le Corbusier pour donner la dimension.
Oui, l'an dernier, il y a eu un grand débat.
Du problème, c'est l'ennemi, c'est de tous ces gens, et ce qui fédère, c'est l'idée de la technocratie. On a un nouveau président qui prend le pouvoir, il enlève 34 euros par mois aux retraités pour montrer qu'il est efficace. Il est technocrate, il va montrer que si tu produis pas, si t'es pas dans le flux, ça marche pas. Tu viens faire chier devant le Fouquet's, je t'arrache un pied, je t'arrache un œil, tu recommenceras pas. Il faut que tu comprennes, je fais exemple. On a une espèce de monde froid. Donc plutôt que de prendre une trame qui est déjà imprimée ou la faire imprimer par la machine, je la fais à la main. J'écris des livres avec des petits tirages que je diffuse dans le bistrot du coin. Je redeviens un être humain. Je trouve pas ça formidable. Qui a été construit avec le chemin de grue et le tout béton parce que c'est efficace. Et ça m'ennuie qu'il n'y ait plus de terrain vague, qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes.
Oh, il y en a encore, tu sais. Il y a beaucoup de friches. Tout n'est pas gagné par
Mais alors, quand tu penses à la beauté des livres de Riesel, par exemple, qui sont totalement désespérés pour prendre un autre situationniste et qui parlait déjà des vergers subventionnés par les municipalités parce qu'ils sont au bord de la route pour les touristes qui passent.
Qui en parlait il y a longtemps, en plus.
Qui en parlait il y a longtemps, qui était donc le bras droit de Beauvais, qui se fâche avec Beauvais parce que Beauvais passe chez Drucker. Et qui se laisse tutoyer par Drucker. Voilà, Beauvais, c'est un bon exemple, par exemple, de représentation foireuse, bizarre, incompréhensible, qui fonctionne pas, on voit bien, c'est ce problème de représentation, de prise en charge de tous. Qu'est-ce que le politique et quand même la technocratie, puisque vous parlez d'écologie, c'est la base même du désastre, et les mecs, ils vont aller plus loin. Enfin, ils ont pas renoncé à leur idéal de progrès. Et donc, ils pensent que c'est le progrès qui va soigner la planète. Et ils font des choses invraisemblables, comme une centrale nucléaire sur un bateau qu'ils envoient dans le Grand Nord. Voilà. J'imagine très bien la bande dessinée, le film d'horreur sur cette centrale nucléaire. Une espèce de paquebot qui est une centrale nucléaire qui va dans le Grand Nord où il y avait un goulag avant et qui électrifie un endroit où il y a personne. Et puis, on voit les petits hommes qui arrivent petit à petit. liberté qu'il faut une usine, on recommence à faire des pantoufles en peau de phoque, je sais pas quoi, mais c'est pas vraiment des peaux de phoque parce qu'il y a plus de phoque. La vie est belle, moi j'aime beaucoup le récit en fait, oui, l'histoire, la révolte, oui bien sûr, plutôt la révolte que la révolution, donc je suis très émeutier. Ah, j'ai beaucoup aimé l'émeute, la barricade.
Bah écoute, tout ça. Là tu mais as vu que c'était devenu, une langue commune, une langue ordinaire.
Alors moi j'avais une question à poser à Laurent.
Bah, moi j'en avais une à te poser également. Alors je commence avec la mienne parce mais parce que justement t'évoquais, on vient d'en parler d'une certaine manière, tu évoquais cette question des. Enfin, vous venez d'évoquer chacun à votre manière la question des architectures, des villes, des formes urbaines. Bon, c'est très important d'ailleurs dans ton dessin, moi je trouve. Et donc du coup, c'est ça. Je me demandais comment tu travaillais justement sur ces formes urbaines. Est-ce que tu travailles à partir de photos? Est-ce que tu travailles à partir de mémoires, de souvenirs? Est-ce que tu travailles à partir de documentation? Est-ce que tu
Les trois, mon capitaine, plus en plus un déplacement sur le lieu, parce qu'un lieu, en fait, moi je pense que pour dessiner un lieu, il faut s'y rendre. C'est pour ça que si j'avais parlé des gilets jaunes, je serais allé voir des gilets jaunes. Là, j'ai parlé de des tuberculeux et j'ai trouvé des endroits où il y avait le dernier sanatorium d'Île-de-France.
Ah oui.
Donc je m'y suis rendu. J'ai pris des photos à Bligny.
Ah oui, je pensais que c'était une fiction en fait. Non, je ne savais pas qu'ils avaient recréé un sanatorium.
Non, il n'a pas cessé d'exister. Hein, même il reprend bien du service justement.
Oui, oui.
Donc ça, c'est ce qui est lié finalement. C'est quelque chose d'ancien la tuberculose, mais en fait c'est quelque chose qui redevient contemporain, comme la commune.
Ouais.
Et du coup, je me suis rendu sur les lieux, j'ai pris des photos, j'ai visité les lieux, j'ai posé des questions. J'aime rentrer dans les lieux, faire ce qu'on appelle donc du repérage, en fait. J'aime bien ça.
Dans le cinéma, d'une certaine
comme manière. Dans le cinéma, et sentir le lieu. Ouais. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, et c'était Eisenstein qui disait ça, c'est ce qui fait vrai, c'est le détail. Et si vous voulez, quand vous faites des recherches sur Internet lieux, on ne peut pas voir les détails. Le petit détail,
l'ambiance,
la petite souris qui passe là, le petit trou, la petite toile d'araignée ou je sais pas quoi, la petite fente. Ce qu'il disait Eisenstein, il parlait sur la représentation de la prison dans un film. Et souvent, on se représente la prison comme quelque chose de sale. Et lui, ce qu'il disait justement, non, c'est quelque chose de propre. Et il parlait de la question des couloirs pour les condamnés de la mort. Et c'est la brillance, la propreté de certains lieux, justement, de ces lieux anonymes, contemporains, qui sont extrêmement propres, extrêmement vides et sales aussi, d'une certaine façon, mais pour la saleté morale, presque, qui contraste avec la propreté.
Bon, les mecs, vous êtes formidables, ça a passé très vite. On arrive à la fin. Si tu veux poser ta question à Laurent.
Alors, ma question, Laurent, c'est une bonne question de fin. C'est justement, qu'est-ce que c'est l'avenir, d'après toi? L'avenir est ailleurs ou l'avenir des Gilets jaunes, il est où?
Alors, bon, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, non, mais je bifure en disant que, bon, bah là, le mouvement, on va bien voir ce qui se passe cette année. Je pense que c'est un mouvement qui est affaibli. Mais l'avenir d'un mouvement, c'est toujours un avenir multiple, parce que Yves le sait bien, 68, ça produit des effets sur les subjectivités, sur les individualités. C'est pas forcément des formes visibles. Il y a plein de formes discrètes d'avenir qui passent par des vies qui ont été bifurquées, qui ont été changées définitivement par l'événement de l'année dernière. Et donc ça va prendre un temps fou en quelque sorte de l'observer, de le remarquer, de le voir. Après, il y a l'avenir de la plus grande question qu'on a posée, c'est-à-dire la question, disons, de cette aspiration communautaire ou locale dont j'ai aussi parlé, qui est pas exactement la même chose. Et ça, c'est évidemment quelque chose, à mon avis, de long terme, mais qui est puissant, qui n'est pas d'ailleurs que progressiste, hein, dans une aspiration dans laquelle peuvent se retrouver aussi des gens qui sont tout à fait inimicaux et des gens que l'on détesterait, parce que dans l'aspiration communautaire, il y a aussi une aspiration à l'entre-soi, il y a une aspiration à la fermeture, et donc c'est toute la question de quelle communauté parle-t-on et de quelle localité parle-t-on. Il faut parler quand même de communauté, de localité, et de localité probablement ouverte, reliée, interconnectée, ça c'est un enjeu. Et puis il y a la troisième question d'avenir qui reste en suspens, mais je vais pas parler trop longtemps puisque c'est la fin de l'émission, mais qui est celle de la question écologique qu'on a évoqué ensemble. Et là mon point, c'est de dire simplement, puisqu'on en a parlé à la fin, voilà, ça se fera pas dans les campagnes seulement, la question écologique, ça va se faire aussi dans les villes dont on a parlé, dans le périurbain. C'est pour ça que le périurbain, ça m'intéresse, parce que c'est un truc interstitiel entre ville et campagne. Il y a peut-être pas beaucoup de friches, mais il y a beaucoup trop de béton, mais mais en tout cas, si là, il n'y a pas un basculement écologique dans ces zones-là, où il y a encore un lien, ne serait-ce qu'imaginaire, avec ce qu'a été la ruralité, eh bien, je crois que si là, rien ne se passe, il ne se passera rien tout court, et a fortiori dans les grandes métropoles où, malheureusement, nous continuons à vivre, même si toi, tu aimes ça, apparemment.
En fait, finalement, les gilets jaunes ont de l'avenir, en fait. Ils vont revenir sous une autre forme, mais ils reviendront et du même lieu.
Oui, quand le jaune vire au vert, il a de l'avenir.
Il y a peut-être, c'est peut-être trop tard, on est peut-être des gilets jaunes qui s'ignorions, et peut-être que les affrontements vont être très violents et qu'on bavarde beaucoup et qu'on glante et qu'on s'amuse quand même, malgré tout, et qu'il y a une espèce de violence dans les enjeux qui va venir quand on voit, par exemple, comme cette jeune fille là qui milite pour le climat se fait agresser, comme on voit comme le ton monte. Comme on va peut-être, c'est peut-être la dernière fois aujourd'hui qu'on a eu la chance de bavarder aimablement, d'avoir une conversation, et que tout va devenir très violent,
ça va se radicaliser
très très vite, et qu'il va y avoir des camps auxquels on pourra pas adhérer parce qu'on comprendra rien. Il y aura, je sais pas, les bergers allemands contre les phoques, et on comprendra pas le langage, on comprendra pas les codes, on n'est pas là-dedans. On n'a pas, et donc les gilets jaunes, c'est des paumés, et nous aussi un petit peu, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui me définit très bien, de dire que je suis un paumé, je suis un type qui a aucun pouvoir d'achat, qui va juste jamais dans une grande surface, j'ai une vie totalement ascétique, et on va en plus me demander de choisir comment un camp. Alors que j'ai déjà pas de camp, que j'ai pas de vie, que je suis en plein lévitation. Enfin, donc, c'était très agréable de vous avoir parce qu'on était encore dans une ambiance très renaissance italienne. Comme ça. Enfin, il y avait des meurtres à l'époque, c'était sympa, mais on était encore un petit peu. C'était assez mondain, quoi, cet échange qu'on a eu.
Et j'ai l'impression. C'était que je me disais que justement, les problématiques actuelles sont des problématiques un peu transversales entre réactionnaires, progressistes. On ne sait pas trop, des fois, il y a certains réactionnaires qui défendent juste des acquis. Donc ça veut dire qu'en fait, être contre le néolibéralisme, c'est d'une certaine façon être réactionnaire.
Ça dépend comment on est contre.
Mais voilà, ça dépend ce qu'on entend par progrès. Et surtout, et en fait, donc on va avoir des problématiques transversales. Être pour l'Europe, être contre l'Europe, être pour l'écologie contre l'écologie, à quel niveau. Et en même temps, on continue de penser de manière clivée et binaire. Et moi, ce que je trouve assez désespérant, justement, c'est ça. C'est on nous demande de choisir un camp. Donc c'est-à-dire qu'en dernier recours, en dernière instance, on en arrive toujours à un choix dualiste. Alors qu'en fait, nous avons des problématiques transversales, complexes. Parfois très très complexe, par exemple sur la question de l'écologie. C'est étonnant qu'une révolte qui finalement finit par être une révolte revendication écologique parte d'une mesure qui était censée être pour l'écologie, la taxation du carburant. Donc c'est quand même extraordinaire ce mouvement de boucle. Moi, ce que je trouve un peu désespérant, c'est que c'est comme si l'être humain était, pour finir sur une note philosophique, mais c'est comme si l'être humain était arrivé un peu à, on va dire, à des sortes de comment on dit,
de seuil
de possibilités,
post-humain,
d'endroit où on peut pas avoir
d'impasse
au niveau intellectuel, enfin pas intellectuel, mais au niveau de capacité de faire du choix ou de prendre des décisions parce que c'est trop complexe, quoi. Et c'est pour ça que je reste sur une note un peu pessimiste, mais voilà.
Oui, mais Yves a raison. Ça va pas se solder par un grand œcuménisme transversaliste où tout le monde va s'accorder sur ce qui va se passer face à la catastrophe écologique à venir. C'est évident que ça. Il y a des gens qui font des scénarios ou qui spéculent sur effectivement une radicalisation des oppositions. Et toi-même d'ailleurs, quand tu suggères que l'avenir est ailleurs et qu'il faut quitter la planète, c'est ce que déjà organisent quelques super riches qui organisent des vaisseaux spatiaux pour aller s'exiler sur d'autres planètes quand le réchauffement climatique engagera des troubles soit disons atmosphériques, soit sociaux trop importants, etc. Donc ça va pas se passer comme une cocktail party, quoi.
Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu, revenez quand vous voulez, c'était formidable, ça a passé très très vite, c'est un vrai plaisir de discuter comme avant, quand il y avait des gens, des bistrots, des communautés, tout ça, c'était très bien. Merci.